Vous écoutez RTL.
Merci beaucoup Marie Guerrier. On se retrouve naturellement à midi pour un nouveau point sur l'actualité. Nous nous plongeons dans la bonne heure avec Stone, notre invité pour son livre Complètement Stone. Chez Robert Laffont, on va en parler dans un instant. Mais d'abord, je vous présente, chers Stone, mes petits camarades. Est-ce que les animaux peuvent être parfois stone, un peu dopés? C'est la question à laquelle répondra notre spécialiste animalier Marc Giraud, qui publie 50 histoires d'animaux pour comprendre Darwin.
Et vous n'allez pas être déçu, les animaux aiment ça, aiment se droguer.
C'est vrai?
Absolument.
Eh ben bravo. On restera dans le domaine animal avec La vie des bêtes, VDB, de Régis Maillot, qui lui aussi est une sorte d'entomologiste auvergnat.
Vous ne l'avez pas fait encore celle-là?
Non, la vie des bêtes. Bêtes,
ouais. La bête, c'est qui?
C'est moi.
Eh ben, c'est vous la bête.
C'est bête, hein?
C'est bête.
Ça fait quoi? Ça fait un peu bizarre comme dialogue.
C'est qui la bête?
C'est moi la bête. Vendredi, on est fatigué.
Ne vous inquiétez pas, il est arrivé plein de choses à la bête.
C'est vrai? Très bien. On aura avec Éric Dussard.
Bonjour, bonjour à tous.
Un avant-goût de ce qui va se passer dimanche soir. Zoom dans son zapping sur les célèbres soirées électorales.
Ah bah oui, évidemment, on écoutera le meilleur du pire des précédentes soirées électorales en espérant que celle de dimanche prochain soit aussi réussie, donc encore plus ratée.
Et alors, là où la confusion va s'installer pendant le quiz musical de Patrice Carmouze.
Bonjour.
Bonjour Patrice. C'est répondre à cette question épineuse, être stone ou pas stone. Non, attention, Patrice, dans les chansons stone, il y a aussi celles qui concernent les pierres. Les Stones.
D'accord. Donc Patrice est vraiment stone, lui. Par
bon, non, on va essayer
que des chansons stone, en fait.
Voilà, très bien. Avec un superbe cadeau, un séjour pour un week-end au château de Mercues, à côté de Cahors. C'est vraiment un relais château 4 étoiles de 30 chambres et suites, absolument magique, avec le chef du restaurant Le Duez qui s'appelle Julien Poiseau, étoilé au guide Michelin. Et puis à 11h40 plutôt. Eh bien, alors qu'on s'approche des élections présidentielles, que se passe-t-il au cours de cette étrange cérémonie au cours de laquelle le président sortant s'entretient avec le nouvel élu? Eh bien, on en parlera à 11h20 avec l'auteur de la pièce qui s'appelle La Passation, justement, Christophe Maury. Mais d'abord, je vous présente notre invité. Notre époque est furieusement nostalgique des années 70, le temps du bonheur et de l'insouciance, quand on laissait aller la musique, qu'il y avait du soleil sur la France, quand on vivait l'aventura et que le prix des allumettes ne flambait pas. Avec la crème fraîche et le camembert, elle a fait aimer la Normandie et ses vaches dans les prés. Elle, qui est devenue ensuite végétarienne, écolo et militante aux côtés de Pierre Rabhi, après avoir vécu le tourbillon des 70s grâce à ses tubes aux côtés d'Éric Chardin et grâce à la comédie musicale Mayflower. Loin des projecteurs de l'actualité, elle apporte la preuve qu'il y a une vie après l'aventura et que l'argent et le succès ne sont pas vraiment les meilleurs pansements pour soigner ses blessures de l'enfance ou celles d'un monde du showbiz complètement stone. Sortant de son silence pudique, elle se dévoile sans tabou et en toute intimité pour la première fois dans une autobiographie publiée chez Robert Laffont, Complètement Stone, c'est le titre, où les mille et une vies d'une fan devenue chanteuse star des années 70 et qui a su se reconstruire dans la sérénité. Avec nous ce matin sur RTL, nous recevons Stone. C'est drôle, quand j'étais petit, je croyais que c'était un seul nom, Stone et Chardin.
Oui.
Mais en fait, non, c'était deux noms. Il y avait Stone
deux,
et Chardin.
Vous avez compris maintenant.
Maintenant j'ai... Oh, bah, oui. Je ne suis plus petit, je suis grand. Alors, je vous ai préparé une interview. Annie, parce que c'est votre prénom.
Oui.
Annie. Annie ou Stone, va falloir choisir.
Bah, Annie, j'aime bien.
Annie, c'est
oui,
bien.
C'est oui, sympa.
C'est sympa. Ouais. Annie.
Stéphane Bern, à la bonne heure.
Nous recevons Stone ce matin, Complètement Stone, chez Robert Laffont. C'est pas elle qui l'est, hein, c'est le nom du livre. Alors, Annie ou Stone, laquelle des deux serait encore prête à vivre l'aventura?
Les deux, les deux.
Les deux.
Oh oui, on peut pas les dissocier. Non.
Laquelle aime aller la musique?
Pareil, les
pareil,
deux
les
aussi.
Deux,
bah oui, comment faire autrement?
Oui, oui. Laquelle est la plus sage? Laquelle est la plus Stone?
Bah là, c'est partagé, 50-50. Alors oui. Voilà, on oui. revient toujours à la même chose.
Annie hein. est sage quand même.
Pas toujours.
Ah, pas toujours. Et Stone est Stone.
Oui, il faut, oui, il faut. Oui. Ça, s'impose, ça s'impose.
Laquelle feuillette le plus volontiers les albums photos?
Ah, Annie.
Annie.
Ah oui,
ah, oui vous aimez. Oui.
Ah, j'adore. Ouais, ouais.
Et vous n'éprouvez jamais de nostalgie? Vous avez beaucoup de photos?
Non, mais... j'ai plein de photos, mais au contraire, c'est assez sympathique de se replonger là-dedans. Non, non, du tout.
Laquelle des deux a rêvé un jour d'être connue?
Ah bah Stone, forcément. Oui. Mmh, eh bah oui.
Annie, c'était pas
Annie
son rêve.
Annie aussi, mais bon, disons qu'avec le nom, le pseudonyme, oui, ça oui. n'a fait que...
Annie, t'es plus fan.
Oui, c'est hein, ça. Que, voilà, j'étais plus de l'autre voilà, côté. De l'autre oui, côté. Absolument.
Mmh. Alors, laquelle est la plus écolo?
Ah, Annie.
Annie, oui, oui. Ah, là, vous êtes devenue...
Ah oui, ah, oui, 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 là, c'est moi-même en oui, personne.
Et laquelle est connue pour sa coupe de cheveux et laquelle aimerait plutôt être connue pour ses combats?
Bah Stone, forcément.
Stone, c'est pour ses cheveux,
pour les cheveux.
Et oui, Annie enfin pour les ça, combats.
C'est, oui, c'est oui. un peu anecdotique.
Et laquelle des deux a des dons paranormaux?
Ah, aucune, hélas. Oui.
Ah, vous aimeriez?
Ah, j'adorerais, bien. Mais je suis très entourée par des gens qui ont des dons paranormaux et qui sont de ma famille, alors ça va.
Ah oui?
Oui.
Vous allez voir le paranormal ici, vous allez être servi.
J'y compte bien.
Oui. Il y a des gens pas normaux.
Oui. C'est pas normal.
On va faire tourner la table oui. dans le studio. Laquelle connaît le mieux François Hollande?
Aucune, je ne connais pas. Non,
non vous connaissez Julie Gaillet.
Oui, bien sûr, ah, Julie. Oui. Bah oui, forcément. Oui, oui.
Et elle-même connaît François Hollande.
Oui, c'est ça, oui, ça rapproche.
Non, il faut raconter que Julie Gaillet est sortie avec votre fils.
Oui,
voilà.
Sortie, enfin, c'est un bien grand mot.
Bah, disons, quand tu étais jeune, quoi.
Elle est rentrée plutôt.
D'adolescent, même pas. Mais non, du tout.
J'osais pas la faire.
Ah bah oui, c'était un peu.
Moi, j'ose tout vendredi.
Vous pourriez écrire un livre qui s'appellerait complètement Stone.
Oui, c'est ça, voilà.
Eh bien, très bien. On va retrouver Stone dans un instant pour parler du livre. Oh, j'ai appris plein de choses. J'ignorais toute votre vie. Et voilà, parce que vous étiez réfugié derrière des chansons. Oui. On découvre plein de choses dans Complètement Stone.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Alors aujourd'hui, je reçois Stone, alias Annie Gautra. On va vous voir avec plaisir dans la prochaine tournée H tendre et jambes de bois.
Et jambes de bois.
Tête de bois, pardon.
Et jambes de bois. Il a fait...
Ça, c'est la prochaine tournée.
Ça, c'est... Je m'avais trouvé.
C'est entre ça, nous, ça, en général. C'est entre nous, patron.
Excusez-le. Non, mais vous êtes gênant, Stéphane. Entre vos invités, c'est gênant.
Oh, je crois que là, de ce côté-là, on a tout entendu. Oui, hein, ça, pour connaître que...
Non, mais...
On est blâmé.
Oui, mais ça, c'est une vanne qu'on fait habituellement. Oui,
c'est comme le
Mais au bureau, ils disent tout ça.
Mais ça ne m'étonne pas du tout.
Je le répète.
Il faut pas répéter tout ce qu'on dit au bureau.
Arrêtez-vous à H-Tend un peu.
Ouais, c'est ça. Alors, d'ailleurs, ça s'arrête à H-Tend.
Ça s'appelle la tournée H-Tend. Absolument.
Il
n'y
a plus la
journée H-Tend. Avec Dave, avec Sheila, avec des gens fort sympathiques qui marchent bien.
Tous les copains sont là, oui.
Ils marchent bien, c'est ça.
Ils marchent très bien.
Allez, malgré la jambe de bois, ils marchent bien.
Alors, vos meubles en attendant. Complètement Stone aux éditions Robert Laffont. Pourquoi, vous qui êtes si pudique et qui n'aimez pas vous confier, vous avez accepté justement à raconter non seulement votre carrière, votre duo avec Éric Chardin, votre enfance? Est-ce que c'est parce que vous avez atteint la sérénité qui vous permettait de le faire?
Oui, il y a une question d'âge, c'est sûr. Oui, puis je ne suis pas si pudique que ça. Non, non, il n'y a pas de raison. Moi, j'aime bien parler de beaucoup de choses. Oui. Je suis très, très ouverte à plein de sujets, parmi même des sujets plus ou moins tabous.
Lesquels,
et puis,
par exemple?
Bah justement, tout ce dont je parle dans mon livre.
Le sexe,
sa mort.
Voilà. Oui, la mort, voilà. Oui,
parce que vous faites partie du collectif de ce qu'a monté Jean-Luc Romero. Ce
oui, qui la DMD, bien sûr. Oui, ah, je suis déléguée de mon arrondissement, c'est pas rien.
Ah, oui, c'est pas rien. Alors, évidemment, avant de parler de la mort choisie, on peut peut-être parler de vos chansons. Et d'ailleurs, quand on dit Stone, voilà à quoi on pense.
Ça.
Voilà, ça c'était Laisse aller la musique.
Il y en a d'autres, hein.
Il y en a d'autres, hein.
Toi, tu ne changes pas. Tu as toujours la même peine.
C'était le prix des Alouettes,
ouais.
Hein.
C'est le prix de... Ça n'a pas changé tellement.
Les Alouettes, je ne sais pas, on achète.
Les cigarettes ont augmenté, ouais. Mais pas tellement les Alouettes.
Encore ?
Il y a du soleil. C'est toute notre jeunesse. Le reste n'a pas d'importance. C'est incroyable comme... Ah bah oui, ça c'est...
C'est la vie que je mène avec toi. Les vaches rousses blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie. Et les cerisiers blancs
mais d'une Normandie. Et ben voilà, ça c'est quand même, c'est très typique des années 70. Ça fait du bien.
C'est gentil, oui, c'est vrai.
C'est vrai que ça fait du bien.
Bah, c'était une période insouciante quand même. Oui. Plus insouciante que c'était une période plus insouciante que
totalement insouciante, hein. Mais bien totalement les limites un peu déglinguées, quoi. C'est... Mais oui, c'est ça.
Mais c'est vrai que c'était joyeux, chaleureux. Et puis c'est Stone et Chardin. Donc cette rencontre, Stone et Chardin. À l'époque, vous fréquentiez le bus Palladium.
Oui, bien sûr. Ah.
Vous avez signé un contrat de chanteuse chez Polydor, mais vous n'aviez pas de chanson.
Eh non, tout le problème était là. Oui. Ouais, ouais,
et puis, compliqué. Alors vous gagnez, je crois que vous gagnez l'élection de Miss Beatnik.
Miss Beatnik, bien sûr.
C'est ça. Mmh. Dans une boîte. Et dans le jury, il y a un certain Eric Chardin qui lui aussi a du mal à trouver sa voix.
Tout à fait. Ouais,
et alors,
c'est
ça. La première rencontre n'est pas très.
Non. Ah non, on ne peut pas dire. Non. Pas très romantique. Non, non, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y aura une suite.
C'est-à-dire qu'il avait. Il faut pas raconter, hein, il avait un peu bu, quoi.
Il avait bu.
Oh, ben, il n'avait pas qu'un peu bu. Oui, ouais, c'était assez.
Il s'était endormi. Sur la cuvette des toilettes.
Oui,
hein,
sympathique, ce garçon, au départ.
Ça aurait dû vous alerter.
Non, non, pas du tout.
On passe sur le mariage avec Eric Chardin, contre l'avis de sa mère. Mais vous avez fait votre voyage de noces avec RTL.
Oui, c'était en quelque sorte. Oui, c'était d'ailleurs un bonheur béat, parce qu'on avait tout ce qu'on aimait, on chantait. On était sur les routes, on était très bien logés.
Voilà, vous avez gagné la valise RTL, c'est ça?
Non, c'était la tournée. J'aurais bien vu la
tournée
RTL.
Des pages, quoi, hein.
C'était des tournées immenses à l'époque. Ouais. Tous les grandes radios organisaient des tournées.
Des tournées tout l'été, oui.
Qui drainaient un monde fou, quoi. Ouais. C'était incroyable. Ouais. Des podiums avec toutes les vedettes du moment.
Mais alors, comment est née l'idée de ce duo?
Bah justement, tout à fait par hasard, si tant est que le hasard existe, que je ne crois pas, mais bon, c'est un autre sujet. Et en fait, j'ai fait une chanson un beau jour qui s'appelait « Le seul bébé qui ne pleure pas », parce que j'avais un contrat et il fallait enregistrer des chansons en solo. Mmh. Et Eric a fait une petite voix par-dessus, voilà, comme ça, pour s'amuser. On lui a dit « ça serait bien que tu participes à la chanson », comme il avait fait la musique. Mmh. Et Riva et Thomas avaient fait les paroles. Et voilà, donc cette formule a plu. Et le seul bébé qui ne pleure pas a eu du succès. Alors on s'est dit, c'est peut-être effectivement parce que nos deux voix se mêlent. Alors après, il a fallu évidemment trouver une chanson qui puisse convenir à Stone et Chardin, enfin à nous deux. Et Eric a composé l'Aventura.
C'est la première, ça a été le gros truc.
Oui.
Ce qui est drôle, ce qui est étrange aussi dans votre carrière, c'est que vous avez continué à travailler avec lui alors que vous n'étiez plus ensemble.
Oh, bah bien sûr, on a travaillé plus longtemps en étant plus ensemble qu'ensemble. Ah, oui.
Peter et Sloan aussi.
Oui, c'est vrai.
Et vous ne vous êtes jamais fâché, ça a été.
Non, jamais. Non. Bah non, parce qu'avec Eric, c'était impossible de se fâcher.
Parfois, vous ne parliez pas quand même pendant.
Ah bah il y a eu des petits coups de froid. Oui, ça c'est vrai. Oui. Mais malgré tout, on a toujours eu. Après, on a toujours continué à se fréquenter et à se voir beaucoup.
Alors, vous avez changé de vie. C'est-à-dire que j'aime bien l'idée qu'on a droit. Il y a la face A, puis il y a la face B. Ensuite, on a une deuxième chance. Vous avez refait votre vie, etc. Et vous êtes devenu je dis pas une autre femme, mais une femme que je découvre, c'est-à-dire hyper bio, vous jeûnez, vous êtes végétarienne, vous fréquentez un monsieur qu'on admire tous, qui est Pierre Rabhi.
Oui, tout à fait.
Qui prône une certaine décroissance.
Ah oui, ça... Si on l'écoutait un peu plus, ça irait
peut-être mieux. Et sobriété heureuse.
C'est important, qui
vous a converti, si je puis dire?
C'est toujours pareil, c'est des rencontres, on rencontre des gens dans la vie, et puis... il y a des gens avec qui ça se passe bien, ça fait tilt, et puis on écoute ce qu'ils disent, quoi. Moi, je suis toujours à l'affût, je suis toujours une oreille qui traîne pour entendre ce que je pense être le ce qu'il faut faire, le bon côté.
Si une jeune femme qui avait votre âge quand vous avez commencé et que vous étiez au bus Palladium, si une jeune femme venait vous voir en disant Stone, dites-moi, quel conseil vous pourriez me donner pour réussir ma vie?
Ou alors là, c'est une grosse charge. Non, je me risquerai pas à lui donner de conseils. Je pense que c'est à chacun de trouver sa voie. On peut éventuellement donner une direction, mais après, on dépend tellement de tout ce qui nous entoure, des rencontres en particulier. Moi, toute ma vie a été dirigée sur des rencontres importantes, quoi. Et à partir de là, on choisit de les voies qu'on a envie de choisir.
Mais comment on trouve la sérénité? Parce que je le disais, je vais pas. Après, les gens vont lire le livre et retrouver vos blessures d'enfance et puis ce par quoi le tourbillon qui avec les dérives, le succès, aussi du succès et de l'argent.
Bien sûr.
Mais comment on retrouve la sérénité? C'est quoi la martingale?
Ben, on se pose pas la question, en fait. Ça se fait tout seul. C'est ça qui est fou. C'est qu'il n'y a pas de se dire faut que je fasse quelque chose. Ça vient tout seul, quoi. Bon, moi, il y a beaucoup de chance aussi. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de chance dans la vie.
Certains se sont perdus en route.
En même temps, quand on est bien entouré, qu'on a la chance, justement, d'avoir autour de soi des gens bienveillants et aimants, ça aide. Donc j'ai eu cette chance là.
Je vous propose d'écouter Tibbs Nation.
Stéphane Bern à la bonne heure.
Nous sommes toujours avec Stone pour son livre complètement Stone, 50 histoires d'animaux pour comprendre Darwin chez Librio.
À la une, l'actu des animaux, Marc Giraud.
Alors Marc,
et les animaux se droguent-ils, aiment-ils ça? La réponse est oui aux deux.
Ah bon.
Vous savez, en ce moment, par exemple, les chevreuils, depuis l'hiver, ils sont affamés, donc ils se jettent sur les jeunes pousses pleines de sève. Et ils ont ce qu'on appelle le mal de broute. C'est-à-dire que la sève...
Non, vous n'en venez pas là-dessus. Franchement, vous n'allez pas être gagné.
La sève fréquente. La sève fermente. Et ils sont complètement bourrés. Ils sont vraiment complètement bourrés. Donc, ils titubent, ils font des petits cabrioles comme ça, et ils perdent toute prudence. Et on en a vu, par exemple, qui titubaient dans les rues d'une ville, qui sont rentrés dans un magasin. On en a vu un qui était complètement hébété sous la table d'un hôtel. Et il a fallu quatre hommes pour l'extirper. Donc, les chevreuils, en ce moment, sont bourré à cause de la sève sucrée.
Mais comment il était entré dans l'hôtel? Il avait passé la porte tournante là?
Ben voilà, oui.
On n'avait pas, pas si bourré. Hein.
Il n'était peut-être pas le seul dans l'hôtel.
Le plus si bourré. Ouais.
Donc il y a aussi les chats, vous connaissez tous, non pas l'herbe à chat, mais les herbes à chat. Il y en a plusieurs. Il y a la valériane, il y a la germandrée des chats, et il y a surtout la cathère, qui est de la famille des mantes.
Comment vous connaissez
ça? Moi j'ai quatre chats, alors donc je connais bien l'histoire des chats, je leur donne de l'herbe à chat, ils sont dans un état quand ils se.
Et voilà.
Oh là là,
alors c'est pas tous les chats, hein, c'est 30 à 50%.
Ah ouais,
ils sont tous stone, c'est la famille. Donc ils la mangent, ils s'y roulent, ils s'y complaisent, on voit vraiment qu'ils aiment ça, quoi. Et tous les félins aiment cette cathère. D'ailleurs, dans les zoos, pour calmer les lions et les tigres, on leur met un peu de cathère. Et tous les félins se droguent à ce qu'ils peuvent. Le jaguar, par exemple, en Amazonie, c'est avec une vigne, une liane, qui est exactement la même qu'a des effets psychotropes, est la même que est utilisée par les chamans. Donc c'est en même temps thérapeutique et psychédélique, chats, et on ne sait pas pourquoi il l'apprend. Mais à mon avis, c'est aussi parce que c'est psychédélique, parce qu'il se roule. Bon, il y a les éléphants aussi qui mangent des graines.
Les éléphants sont bourrés aussi.
Aussi. Et c'est familial des fois chez eux, parce qu'ils adorent les graines fermentées du mirouba. Et ils le transmettent à leurs enfants, les bons plans, là où on peut se bourrer un peu. Donc il y a des cas d'alcoolisme familial. Et je vais terminer.
Et vous-même, vous en êtes où? Ça va?
Moi, j'ai tout arrêté, c'est pour ça que je suis là.
Il essaye tout.
Il nous dit n'importe quoi, en fait.
C'est-à-dire, on ne va pas les vérifier non plus. Hein.
Moi, je ne vais pas vérifier auprès de l'éléphant, hein, perso. Je ne prends pas le risque.
Bon, j'ai encore une diction à peu près honnête. Donc, je vais terminer avec les mouches qui boivent pour oublier. Alors ça se passe en labo. En labo, mais c'est vraiment... On a pris deux groupes de mâles, de mouches, des petites mouches du vinaigre, les drosophiles.
Juste une question. Comment vous repérez une mouche est mâle ou femelle?
Ah bah ça, c'est scientifique. Elles ont des gros yeux. Parce qu'elles draguent à vue les mâles, donc ils ont des gros. Mais c'est vrai, et les femelles ont des petits yeux. Voilà, c'est comme ça que je les.
C'est normal
voilà.
Qu'elles picolent, elles ont une vie de merde.
Alors, c'est pas des mouches à merde, c'est des mouches à vinaigre. Donc, on a mis deux groupes de mâles et on les a enfermés avec des femelles. Un groupe de mâles, c'était des femelles vierges qui étaient en demande d'accouplement, et l'autre avec des femelles déjà fécondées qui refusaient l'accouplement. Et au bout de 4 jours, on les a sorties, on leur a proposé soit de l'eau, soit de l'alcool. Et ceux qui étaient contents, qui avaient fait 4 jours de fête sexuelle, buvaient de l'eau. Et ceux qui étaient frustrés se sont jetés sur l'alcool.
Ah, c'est comme en boîte de nuit, en fait.
Absolument, absolument. Parce qu'il manquait à leur cerveau une substance liée au plaisir qui s'appelle un neuropeptide F, et figurez-vous qu'on a la même dans le cerveau, nous aussi.
Ah ben voilà. Donc, nous
sommes tous des mouches.
Il y a l'instinct d'un côté quand même. Hein, tout s'explique, voilà. Merci Marc Giraud. On va retrouver dans un instant Stone pour la suite de la bonne heure, et puis on va vérifier nos informations. C'est vrai que...
L'interview, c'est vrai que...
Alors, Stone, c'est le moment de c'est vrai que c'est vous vrai. En parlez volontiers. Vous avez déjà eu recours à la chirurgie esthétique quand vous étiez très jeune pour arracher des dents de lait qui n'étaient pas tombées. Et vous avez utilisé le Botox, vous le dites. Et là, vous n'avez pas encore... Vous avez besoin de rien, mais vous dites, je ne sais pas si je vais faire quelque chose.
Non, on va y songer.
Ah oui, pourquoi?
Bah comme ça, parce que voilà, c'était une espèce d'habitude tous les 10 ans.
Tous les 10 ans,
on fait une petite mise à jour.
Ah oui.
Oui, oui, voilà.
Mais il y a beaucoup d'actrices ou de ah, célébrités bien sûr. Qui le font sans le dire. Ou
oui,
qui...
c'est ça qui est drôle, parce qu'évidemment, pour beaucoup, ça se voit énormément. Ah, alors, oui, c'est embêtant, oui. quoi.
Et elles disent
de
non.
De nier, alors que oui, c'est évident.
Il ouais, oui. y a des gens chez qui ça se voit plus que
d'autres. Oui, c'est ça.
Après, c'est une question de dosage, en fait. Oui, hein.
C'est peut-être ça. Oui. Puis, question de médecin aussi.
Oui, oui, bien sûr.
Vous allez pouvoir en discuter dans les coulisses de H-Tendre.
Il y a de quoi faire.
C'est plus des prothésistes, là, parce que c'est jambes de bois.
Alors, d'autres questions.
Oui, on le disait tout à l'heure, vous êtes assez attiré par tout ce qui est paranormal, ésotérique et tout ça. Mais alors, le problème, c'est que le don saute une génération. Votre mère avait des dons de voyance, etc.
Tout à fait.
Et votre fille
aussi,
en a.
Oui. Mais vous. Ah bah non, je suis passée à travers. hélas. J'aurais bien voulu, mais non.
Ouais. C'est pas un peu angoissant quand on est entouré de.
Ah non, au contraire, c'est très. Non, non, c'est pas angoissant du tout. Non,
mais vous voyez des choses qui vous ont
marqué, oui, hein. Ah bah complètement. Puis quand c'est des gens de notre famille, on les croit. Ça peut pas être un mensonge ou une affabulation quelconque. Non, non, pas du tout.
D'autres questions.
Stéphane l'a dit au début, vous êtes engagé dans la cause animale
et
l'écologie.
Oui, bien sûr, justement, ça m'intéressait ce que vous disiez.
Et vous m'avez montré d'ailleurs les colibris qui sont sur.
Voilà,
ça c'est Pierre Rabhi,
tout à fait.
Et en fait, vous seriez ambassadrice de l'association Stéphane Lamarre.
Stéphane Lamarre, absolument, depuis une dizaine d'années. C'est une association qui vient en aide aux animaux et on fait énormément d'opérations assez importantes. Pour, évidemment, à notre petit niveau, essayer d'arranger les choses. Et il y a énormément à faire.
Quand vous dites opération, on opère les animaux?
Non, d'opération, je veux dire, on va sur le terrain quand il y a un problème. Oui, on fait aussi des opérations, parce qu'on s'est chargé des chats, par exemple, à faire opérer.
Stériliser les chats.
On s'est mis toujours des... Il faut vraiment y aller à fond, quoi. C'est-à-dire qu'il faut rencontrer les responsables, il faut être aidé. Et on a fait ça, c'est l'été dernier, on a pris une trappe, on a attrapé les chats là où je suis à la campagne et on les a emmenés se faire opérer grâce à la mairie qui avait débloqué un budget pour ça.
Et c'est très humain parce que sinon ça fait plein de petits chatons qui meurent dans les coins et on ne sait pas comment les adapter, donc il faut les stériliser.
Et surtout après il y a beaucoup de massacres parce que souvent les communes, ils vont carrément, c'est comme pour les pigeons, on tue.
C'est pareil avec les candidats de télé-réalité.
On massacre beaucoup.
D'autres questions
pour les enfants. Et alors, vous êtes végétarienne, Stone, et vous dites que c'est plus pratique pour improviser des dîners.
Oui.
Pourquoi c'est plus facile?
Parce que déjà, on supprime une partie de l'alimentation, tout ce qui est carné, on l'élimine.
Mais surtout, il y a plus grand monde qui s'invite à l'improviser.
Ah si, justement, il y a un monde. Alors moi, j'ai
du quinoa. C'est très très bon.
Alors je vais vous dire,
les épices, les herbes, c'est très très bon. Mais il y a beaucoup de pluches en revanche.
Ça fait 30 ans. Oui, beaucoup de pluches, c'est vrai.
Parce que l'apéro saucisson sans saucisson, c'est.
Ah non, il y a pas besoin. Si, il y a du saucisson végétal qui est délicieux. Bien sûr.
Vous êtes végétarienne?
Oui.
Végétalienne?
Non, je suis végétarienne. Je tends à être végétalienne, mais.
Vous mangez les œufs?
De temps en temps.
Quelle honte!
Mais de plus en. Oui, quelle honte! Pour les végétaux
véganes, c'est ça?
Oui, c'est végane, mais c'est je tends à ça.
Et après, on ne se nourrit plus du tout. Après,
on peut aussi, c'est vrai.
Vous jeûnez, vous jeûnez?
Oui, une fois par an, une semaine.
Une semaine. Pendant le carême, ça
comme mon curé. Pas du tout, non, c'est toujours au mois de juin. Parce que
c'est le ramadan alors.
Oui, et c'est vraiment un plaisir, c'est une habitude qui fait beaucoup de bien.
Le ramadan, c'est pas toujours.
Oui, ça change de
temps. C'est au mois de juin cette année.
C'est vrai que vous n'êtes pas très attaché aux objets, qu'en revanche, vous gardez beaucoup de photos, souvenirs qui vous rappellent.
Ça.
Particulière.
Des films et des photos, oui.
C'est bien, quand vous sortez une autobiographie.
Ah,
elle est très documentée.
Il
y a un très joli cahier photo, il y a plein de souvenirs. Très bien, on va retrouver dans un instant Stone, mais d'abord on écoute Gnarls Barclay Crazy.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Nous sommes toujours avec notre invité Stone, qui publie complètement Stone chez Robert Laffont. Mais nous allons passer un coup de fil à Christophe Maury, qui est l'auteur de la pièce La Passation au théâtre Les Feux de la Rampe, dans le 9e arrondissement de Paris, avec de merveilleux comédiens, Pierre Santini, Éric Logérias, une mise en scène de l'excellent Alain Saxe. Bonjour Christophe.
Bonjour Stéphane, comment allez-vous ?
Très bien, merci. Alors on va pouvoir, grâce à vous et en avant-première, se glisser dans les coulisses de ce qui va se passer dans 3 semaines environ, cette fameuse cérémonie de la passation du pouvoir, au cours de laquelle le président sortant s'entretient avec celui qui va lui succéder. On sait très peu de choses, au fond, sur cette cérémonie, parce qu'elle reste très secrète. Vous avez enquêté ou vous avez eu des scoops pour écrire votre pièce ?
Oh ben, j'ai croisé quelques informations en écoutant un peu ici et là les anecdotes qu'on avait pu entendre. On sait vraiment rien de ce moment, mais c'est un moment terrible. Vous imaginez, ils sont enfermés dans un bureau, ils se sont détestés pendant toute la campagne et ils sont obligés de se parler. Oui. Alors, je n'ai pas voulu faire un spectacle de chansonnier. J'ai voulu vraiment faire du théâtre avec des personnages de théâtre. On ne sait pas d'ailleurs qui est de gauche, qui est de droite. Ce sont deux hommes de pouvoir, deux fauves politiques qui arrivent en fin de parcours. On rentre ici victorieux, on sort abattu, dit l'un. Et l'autre qui va prendre les manettes et qui va vouloir s'imposer. Et le premier en disant « je suis le président ». Et l'autre dit « non, vous êtes le candidat victorieux à l'élection présidentielle. Vous serez président dans 20 minutes ». Donc, ils vont rejouer le truc.
Donc, tout va se passer pendant 20 minutes. Alors, il y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup et qui intrigue les auditeurs. C'est le fameux code nucléaire que le président sortant doit transmettre à son successeur.
C'est 4x0.
Chez la famille, chez Kim Jong-un, etc., c'est vrai que c'est plus facile parce que c'est de père en fils et puis on appuie sur le bouton.
Mais
en France, dans votre pièce, le code est inscrit sur une plaque qui est reliée à une grosse chaîne doré que le président doit porter en permanence sur lui.
Oui. Alors, il semblerait que, c'est ça qui m'a donné l'idée de la mettre en scène, il semblerait qu'en effet, il y ait une chaîne et que François Mitterrand avait oublié cette chaîne dans un pantalon qui avait été mis au pressing. Et il a fallu que des motards, la gendarmerie, je ne sais pas trop quoi, récupèrent le pantalon parce que la chaîne était dedans avec le code nucléaire.
Ah oui.
Ça, c'est quelque chose que j'ai lu.
C'était après un rendez-vous galant, hein, c'est ça ?
Oui.
Pardon ?
C'était après un rendez-vous galant.
Après un rendez-vous galant, bien sûr. Parce que comme le dit le président Santini dans la pièce, baiser avec le code nucléaire entre les seins, au début ça fait rire, mais après c'est pas drôle.
Oui, parce qu'il faut toujours le porter autour du cou.
Il ne faut pas le perdre.
A priori, il faudrait demander maintenant à l'un de nos anciens présidents de la République si c'est vraiment le cas.
Ben, le truc ce qui est bizarre, c'est que si jamais vous devez actionner le code nucléaire, si vous l'avez autour du cou, vous ne pouvez pas le lire.
Si c'est une chaîne comme ça,
alors elle est très longue. Mais si c'est un collier, il faut la retirer.
Mais déjà, ça se présente comment ? C'est-à-dire, c'est un petit digicode, comme disait Éric Dussart
tout
à l'heure.
Oui, avec le code que je vais vous donner.
Je crois qu'il y a des chiffres, et puis le chef d'état-major de l'armée a des chiffres complémentaires.
Exactement.
Voilà. Absolument.
Et ben voilà, on va vous donner les chiffres.
Les chiffres gagnants.
C'est comme le loto, faut l'avoir dans l'ordre.
Alors, et attention aux chiffres complémentaires.
Dans la pièce, alors Pierre Santini joue le président sortant et Éric Logérias joue le candidat entrant.
Ouais.
Ils ont visiblement été opposés pendant la campagne. Ils continuent à se faire des crasses pendant la cérémonie de passation. Est-ce que vous êtes inspiré ? Vous savez, il y a quelques jours, François Hollande a dit qu'il regrettait de s'être mal conduit en ne raccompagnant pas Nicolas Sarkozy au bas de l'escalier jusqu'à sa voiture.
Ben, c'est une pièce que j'ai écrite il y a 2 ans déjà, que j'ai écrite pour Pierre Santini. C'était à la suite d'un dîner à Avignon où tout le monde s'est mis à parler politique. Et je l'ai trouvé tellement remarquable que je lui ai dit « Écoute Pierre, je vais t'écrire une pièce, tu es un président ». Et ensuite, je me suis dit, bon, un président, quand on paye 20 euros sa place, qu'est-ce qu'on veut voir ? On veut voir un truc inédit, un truc qui est interdit. Dans quelle mesure on est la petite souris pour voir un truc qu'on n'a pas le droit de voir et que personne d'autre n'a le droit de voir ? Et donc, j'ai pensé que la passation pouvait être amusante pour mettre en concurrence deux hommes de deux générations différentes, parce qu'ils sont de deux générations différentes. Autant Santini fait un peu René Coty, il faut le dire, autant Éric Logérias...
C'est un peu Giscard, quoi.
Parce qu'il est assez technocrate, faut le dire aussi.
Ouais, oui, technocrate. En tout cas, c'est une très belle pièce.
Très belle pièce,
Ah oui, Patrice a adoré. C'est au théâtre Les Feux de la Rampe, dans le 9e. Merci Christophe Maury. Je rappelle que c'est avec Pierre Santini, Éric Logérias et mise en scène par Alain Sachs. Voilà.
Merci Stéphane.
Merci, bonne journée. Et on va retrouver Éric Dussart dans un instant pour parler. Ça va être le moment de la passation vers le zapping télé.
À la bonne heure, Éric Dussart met la télé sur écoute.
Et bien justement, Éric, on commence avec l'élection présidentielle.
Eh bien oui, nous y sommes presque. Hein. C'est donc après-demain qu'il faudra vous rendre à l'isoloir et non au même endroit que cette candidate de la famille en or.
À une élection présidentielle, vous êtes allée voter ?
En fait, je suis partie pour aller voter et tout. Je rentre dans l'urne noire et...
Hein ?
Dans l'isoloir. Merci, Michel, merci.
Alors, on l'appelle, on ne peut pas voter dans les urinoirs de la même manière qu'on ne peut pas uriner dans les isoloirs. Ça ne se fait pas.
Il y en a qui pensent que voter, c'est pisser dans un violon. Hein.
C'est plafond, ouais. Alors, on précise quand même que c'est la même candidate de La Famille en Or qui avait été bien désarçonnée par le fait que cette année-là, elle n'avait pas pu voter pour son candidat favori, c'était Olivier Besancenot. Elle cherchait partout un bulletin où il aurait été écrit le facteur. Elle ne l'avait pas trouvé, donc du coup, dans l'urinoir, elle n'avait pas pu glisser le bon bulletin dans l'urinoir. Alors, quels que soient les résultats de ce premier tour, il y a quelque chose qui mettra tout le monde d'accord dimanche soir. Ce sont bien sûr les grandes soirées électorales que vont proposer toutes les chaînes. Ce sont toujours de grands moments de télé, surtout les débats, hein, qui sont toujours passionnants, éclairants.
Parce que en réalité, dans ce premier tour,
ça commence à bien faire. C'était donc DJ Pierre Moscovici, l'homme qui parle toujours comme dans un remix de David Guetta. Ouais. C'est très étrange, vous avez vu.
C'est étrange. Mais il ne veut pas abandonner.
Tous ces mots. Il n'a jamais l'affaire.
Ah non, il ne lâche pas.
Une bonne soirée électorale, ce sont donc de bons débats et de bons duplex. Mmh. On se souvient tous, par exemple, de ce moment culte au soir des élections législatives de 1981, quand Jacques Chirac ne sait pas qu'il est à l'antenne.
Monsieur Chirac, vous êtes avec nous en direct, mais j'ai l'impression qu'il n'entend pas. Monsieur Chirac.
Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou quoi?
Non, on ne chauffe pas l'appareil.
Et oui, car à l'époque, on faisait les duplex avec des appareils raclette. C'était comme ça en 80. Il fallait donc faire chauffer avant d'établir la liaison. Sinon, très beau duplex aussi sur Canal+. Ça, c'était au soir du second tour de l'élection présidentielle de 2012. On a le journaliste Karim Rissouli qui se trouve à Tulle, au QG de François Hollande, qui vient d'être élu quelques minutes plus tôt. Et bien lui non plus, il ne sait pas qu'il est à l'antenne.
Justement, on va retrouver Karim Rissouli qui se trouve tout près de François Hollande. Il est juste devant son bureau à Tulle. Oui. Que se passe-t-il? Est-ce que vous avez pu apercevoir François Hollande?
Le maire de Tulle, Bernard Combes, en pleurs, est à côté de nous. Est-ce que ça vous intéresse?
Oui, ça nous intéresse.
Oui, ça c'est bon, Coco, pour l'audience. On prend tout de suite. Hein. Vas-y, chiale, vas-y. C'est bon, ça.
Il est à poil ou pas?
Tu peux le pincer pour qu'il pleure un peu plus encore? Il y en a une autre qui avait fini en pleurs ce soir-là, à mon avis. C'est cette journaliste d'M6 qui avait commis une bourde au moment même où il ne faut absolument pas se tromper dans une carrière, c'est-à-dire à 20h, pile.
Le nom du président.
Quand il faut dévoiler le nom du président. Alors là-dessus, non, elle ne s'était pas trompée sur le nom. En revanche, sur les scores, un petit peu.
De désigner à la présidence de la République, eh bien c'est François Hollande. Qui est élu à 5,9% des suffrages.
Ça, c'est le score qu'il ferait sans doute s'il se présentait aujourd'hui. Ah, oui.
C'était prémonitoire. Ouais.
Elle avait raison, mais avec 5 ans d'avance.
Ouais. Non, mais parce que souvent, quand ils disent François Mitterrand au lieu de François Hollande.
Oui, il se trompe assez souvent.
Il se trompe assez souvent. On saura donc dimanche, Eric, si les sondages ont été fiables.
Oui, et alors, on peut se permettre d'en douter quelque peu après le reportage qu'a fait Envoyé Spécial, justement, sur ces sondages.
Nous avons contacté des dizaines de Français sur des blogs et des forums consacrés aux sondages rémunérés, comme ce jeune homme.
Il m'arrive de mentir sur mon identité, mon genre, ma région. Il m'arrive surtout de rigoler en faisant monter des candidats rigolos et exotiques.
Mentir au sondage a donc l'air très simple. Alors j'ai voulu faire le test et rentrer dans la peau d'un sondé menteur. Pendant des mois, j'ai menti sur mon profil. Un institut en particulier m'a beaucoup sollicité, Harris, qui réalise notamment les sondages pour France 2. Chaque fois, j'ai menti sur mon intention de vote.
Alors lui, je pense qu'il y a quelques petits problèmes avec la direction de l'information de France 2, hein, puisque là, c'est quand même juste en train de nous dire que sa chaîne diffuse des reportages assez, des sondages assez moyens. Bon, après, il doit y avoir une pondération, ils doivent savoir qu'il y a un pourcentage de menteurs. Bon, toujours au sujet des sondages, autre révélation dans ce reportage, le fait que Manuel Valls, alors Premier ministre, se commandait des sondages sur son image.
Sur 111 pages, le sondeur analyse l'apparence du Premier ministre de l'époque à partir de photos. Et tout y passe, ses mimiques, sa gestuelle, son style vestimentaire et même sa coupe de cheveux. D'après cette image, sa coiffure lisse et sa frange crantée auraient une connotation frondeuse. Et ses oreilles dissymétriques, avec la droite décollée, seraient le signe de son côté bagarreur. Cette analyse a coûté 53 520 euros.
Payé avec de l'argent public, évidemment, et ça n'a pas besoin de faire un sondage pour savoir que ça fait plaisir à 100% des contribuables.
Quelle horreur. Et on termine avec une grande fête demain soir.
Oui, une émission spéciale pour fêter les 50 ans de la télé couleur présentée par celui qui était déjà là au temps du noir et blanc, Michel Drucker, qui aura à ses côtés de nombreux invités, Thierry Ardisson, Philippe Gildas, Michel Simès, Marc-Olivier Fogiel ou encore Nelson Montfort. Je pense donc qu'ils vont rediffuser sa meilleure traduction.
We're happy to receive you tonight. I know that it didn't go as well as you expected, but I guess to skate here in front of your home crowd will stay in your heart a long time.
Oui, bien sûr.
Ah ben, aujourd'hui, vous parlez français.
C'est le problème de Nelson, ça, oui. Il traduit bien, mais il traduit trop.
Merci beaucoup, Eric.
Traduit trop, ouais.
Eh bien, on va retrouver Stone dans un instant pour son livre Complètement Stone sur RTL. Et c'est publié chez Robert Laffont. Et Régis Maillot se prépare pour VDB. Alors, à tout de suite.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et nous sommes toujours avec Stone. Complètement Stone. Elle est jolie cette photo d'ailleurs que vous avez mise en couverture. Oui. C'est vrai que cette mèche, on parlait de la mèche crantée de l'ancien fort, Premier ministre, mais vous avez cette mèche aussi qui a fait beaucoup.
Bah oui, ça m'a suivi toute ma vie. Ouais.
Alors lui, il est deux mèches, c'est très différent. Il prétend connaître ma vie, mais il ne connaît rien. Régis Maillot.
VDB, la vie de Berne.
Régis Maillot.
J-2 avant le premier tour des élections. Ici, l'attente est insupportable. D'après les sondages, le résultat est aussi serré qu'Isabelle Adjani dans son pantalon taille 36.
Oh, c'est méchant. Et
Stéphane Bern est au bord de la dépression. Pour couvrir ses arrières, il a déjà félicité tous les candidats, y compris Jacques Cheminade, on ne sait jamais. Ils sont 11. 11 à prétendre à la fonction suprême. Mais saviez-vous qu'à l'origine, ils étaient 12? Entre Maillot, rejoins-moi dans le donjon. Je suis avec Carmouze et Dussard et je dois vous parler. L'heure est grave. Qu'est-ce qui se passe, patron? J'ai pris une grande décision qui vous concerne directement. Pourquoi il sautille, là, Dussard? Je crois qu'il est content. Ah bon? Qu'il est content? Il pense que vous allez enfin nous verser nos 5 ans d'arrière et de salaire?
Oh, c'est pas moi qui l'ai payé.
Tu diras à cet arriviste de Dussard que c'est vulgaire de parler d'argent, surtout quand on n'en a pas. Et pas question de vous. J'ai une grande nouvelle, les amis. Je vais me présenter à la présidence de la République. Super, et en quoi ça va changer nos vies? Ben, c'est vous qui allez vous occuper de tout. Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il dit, Carmouze? Il dit que ça va rien changer à nos vies, c'est ça? Dès le lendemain, Stéphane Bern avait déjà endossé son costume de président. Patron, on peut savoir ce que vous faites debout sur le dos de Carmouze? Je répète mon discours à la candidature de gauche que je vais donner demain à la mutualité. Ah bon? Depuis quand vous êtes de gauche? Je suis de gauche, comme tout le monde dans le showbiz, enfin. Vous croyez pas que c'est un peu trop? Quoi? Ma tenue de Che Guevara? Non, ça va plutôt bien, mis à part la jupe. Oui, c'est du Jean-Paul Gaultier. Ça se porte toujours sans slip. Ah bah voilà. Bon, concrètement, patron, vous voulez faire quoi pour les pauvres? Je vais acheter des dents aux sans-dents.
Oh, non, mais c'est là.
Je serai le président des implants et des bridges. En tant que spécialiste des couronnes, c'est normal que je m'occupe des sans-dents. Eh oui, longtemps, Stéphane Bern a cherché sa voie dans cette campagne. Il fut tour à tour en marche, en arrière, à gauche, à droite, parfois très à droite. Je ne me lasserai jamais de cette musique fière et entraînante. Maillot, on demande quoi à un président de droite? Bah, de protéger les citoyens? Parfaitement. Pour ça, il faut déjà qu'ils aient la trouille. L'insécurité, c'est du pain béni pour les élections. Toujours privilégier la répression à la prévention. Bah, vous venez de taser Carmouze, hein? Oh, mais c'est pas grave, on ramassera plus tard. Je te propose mes mesures de progrès dans le vivre ensemble. Note, Maillot, note. Alors, déjà, on va abaisser la majorité pénale à 4 ans. Ouais, c'est un peu tôt quand même. Ensuite, il faut surfer sur la peur de l'étranger. On va supprimer les bouées de sauvetage dans les bateaux de migrants.
C'est horrible.
Pousser un peu loin le curseur. Pousser un peu loin le curseur, là, quand même. Je te l'accorde, c'est une niche électorale, mais vu le climat actuel, on n'est pas à l'abri d'un beau succès d'estime. Bref, toutes les conditions étaient requises pour gagner. Stéphane Bern a même enregistré un clip de campagne.
Moi, Stéphane Bern, je veux faire entrer la France dans le 21e siècle. Je serai un président moderne. J'éradiquerai le scorbut, la peste bubonique et la gangrène de Constantinople de tout le royaume. Le feu sacré, les fièvres et les coliques pestilentielles seront pris en charge à 100% par les hospices royaux. Je supprimerai la dîme, la gabelle, la taille royale. Une poule au pot bio sera donnée aux crotteux des faubourgs qui en feront la demande à l'échevin. Et du pain sans gluten sera pétri pour les bohémiens du canal Saint-Martin qui roulent en vélib. Mais finalement... Mais finalement, oui. Tout s'est brusquement arrêté.
Maillot, je n'ai plus envie d'être président.
Bah pourquoi ?
Je viens de voir un reportage d'Élise Lucet sur France 2.
Et alors ?
Eh ben attends, dévoiler son patrimoine pour gagner si peu d'argent, se faire détester par la moitié du pays, s'enrhumer le 14 juillet, aller manger des rillettes dans les foires à la saucisse, tout ça pour décrocher un CDD non renouvelable et devoir clôturer ses comptes en Suisse. Je vais te faire une confidence qui me brise le cœur, Maillot.
Avant laquelle,
je préfère encore rester avec vous sur RTL. À la bonne heure.
Merci beaucoup, Régis. Ça nous porte pas mauvais... Pas mal, ça nous porte chance de rester ensemble sur RTL.
Eh bien évidemment, en plus.
Plus 90 000 auditeurs en un an.
On est sûr d'être élu au premier tour.
Exactement, voilà. Régis Maillot est en tournée avec son spectacle citoyen. Il sera notamment le 4 mai à Saint-Dié-des-Vosges, le 9 mai à Lille, le 13 mai à Brioude et le 10 juin à Vosvillers, en Moselle. On va retrouver dans un instant Stone, mais d'abord on écoute Texas, Great Romances.
À la bonne heure, Stéphane Bern.
Et c'est le moment, cher Stone, de, ou cher Annie, comme vous voulez, de faire l'interview où c'est le moment où il faut choisir.
Très bien.
Vous préférez le jour ou la nuit ?
La nuit.
La nuit, ouais. Ah oui, toujours.
Ah, très noctambule.
Ah oui. Vous couchez à quelle heure, par exemple ?
3 heures du matin.
À jamais oui. Avant ?
Non, rarement.
Et vous levez à quelle heure ?
Midi.
Ah oui,
vous ne pourriez pas vivre avec Stéphane.
Ah non,
ça n'a pas le même rythme du tout.
Ah ouais, c'est marrant.
Si il divorcerait pas, il se verrait jamais.
Oui, c'est ça.
Il n'y a aucun risque. À 11h, je suis au lit, moi.
Ah, c'est fou, ça.
Mais je me lève à 6h.
Ah bah voilà.
Sport ou shopping ?
Sport.
Ah, vous êtes sportive ?
Oh, pas tant que ça, non. Mais shopping, je déteste.
Non, non, non. Voter ou s'abstenir ?
Voter.
Voter.
Ouais.
Ah oui.
Ah oui, quand même. Oui, oui.
Et vous êtes une femme engagée en plus.
Ah ben, j'essaye. Bah oui, dans la mesure où quand même, faut s'investir un petit peu.
Même si la cause animale est complètement absente.
Mais ça, c'est une catastrophe. Oui. Hein, mais oui, mais je suis d'accord.
Il y en a deux ou trois qui en ont parlé, mais c'est un petit peu opportuniste au dernier moment.
Mais c'est incroyable d'ailleurs. Moi, je trouve ça insensé de ne pas se pencher là-dessus.
Oui, parce que dans d'autres pays, il y a un parti animaliste et il est très, très fort.
Très, très fort. Et de plus en plus.
On peut saluer quand même un certain nombre d'enseignes qui refusent maintenant de vendre des œufs de poules
qui ont été élevés.
Il y a des progrès.
Il y a des progrès.
Il y a du mieux.
Ça va disparaître.
C'est lent.
Lesquels œufs ?
Les œufs en batterie.
Les œufs en batterie. Oui, oui.
Parce que vous savez, ces œufs, vous ne les trouvez pas directement dans le commerce, mais les industriels les utilisent pour les gâteaux que vous achetez.
C'est ça, évidemment. Bien sûr.
Et donc,
on ne peut pas faire le
prix. C'est mal fait, si je puis dire.
Et bien, en même temps, les poules en batterie, elles sont pas mal.
Elles
sont chauffées, nourries, elles ont de la musique classique.
Ah oui, mais elles ne sont pas d'accord du tout.
L'espace, c'est une feuille à quatre.
Non. C'est une catastrophe.
Ouvrez
totale.
La cage aux poules.
C'est important.
Ce que je vous propose maintenant, c'est de... Aux oiseaux, c'était une illusion. Oh, je vous propose maintenant, pour vous, l'oiseau, de retrouver...
C'est bien complémentaire, les deux. Hein.
Le test musical. Hein, c'est les deux vieux du Muppet Show, on dirait. Ouais. Patrice Carmouze et moi.
Pipo et Mario.
Le test à l'aveugle de Patrice dans un instant.
Le test à l'aveugle de Patrice Carmouze.
Alors Patrice, je rappelle que nous jouons pour faire gagner des auditeurs et auditrices, leur faire gagner un séjour au château de Mercues. Formidable endroit pour...
Je connais très bien le château de Mercues. On a fait tourner des tables là-bas avec Eric.
Ah, oui.
C'est marrant. Hein.
Ouais, les tables tournent facilement.
Ah oui, là, il y avait un guéridon qui bougeait beaucoup. Ouais, c'est drôle. Bah,
c'est
drôle. Ouais, il y a longtemps.
Je m'en souviens. Chargé d'histoire.
Chargé d'histoire.
Le général de Gaulle y a dormi. Vous savez.
Oui,
il n'a pas fait tourner des tables.
Il a tourné le lit.
Puis on boit un peu de vin de Cahors. Bon, ça aide à tourner.
C'est vrai, ça aide aussi.
Alors, nous jouons. Stone et moi, nous jouons pour Coralie et le reste du monde joue pour
Didier.
Très bien. Et ce thème,
C'est Stone.
C'est Stone, donc c'est des chansons qui ont un trait soit à Stone, soit aux pierres.
Donc on vous dit c'est Stone ou pas Stone ?
Non, il faut, simplement, il faut deviner qui chante.
Hein. D'accord, très bien.
On commence par vous deux. Qui chantait cette chanson ?
Stone ! Fabienne Thibault. Oui. C'est ma copine.
Là, vous vous connaissez bien.
Pardon.
Vous vous connaissez bien.
Oui, bien.
Des
oui.
années qu'elle vous chante. Hein.
Oui. J'en suis ravie.
Alors, on peut faire une version anglo-saxonne et donc là, je vous demanderai qui chante.
Cyndi
Lauper. Ah bah, attendez.
Trop fort. Eric, trop fort.
Bravo. Il y a match, hein. Parce qu'elle était superbe cette version.
Ouais.
Aussi,
hein. Ouais.
Magnifique. Un partout.
Alors là, qui chante cette chanson?
Ah, ça c'est les Rolling Stones.
Non.
Non. Si c'est les Rolling Stones.
Non. Moi je sais.
C'est Like a Rolling Stone.
C'était Bob Dylan.
Oui.
C'est Bob Dylan.
Vous avez mal lu, Stéphane.
Non, mais moi je connais. Je crois que c'est les Rolling Stones. Comme c'est en anglais, je pensais que c'était forcément les Rolling Stones.
Like a Rolling Stone.
Non, c'est Bob Dylan en effet. Dylan, bravo.
Ouais. Bon, je dirais Rolling Stone pour le prochain.
Non, parce que là ça va être en français donc. C'est ton cœur de pierre.
Jennifer ?
Non.
Ah, Tina Arena ?
Oui, bravo.
Ah, Tina Arena.
Deux partout. Petit accent.
Bon, ensuite.
Alors, ensuite, c'est pour vous deux.
Oh, ça, c'est les Beatles.
Et pourquoi c'est Stone? Parce que la chanson.
Parce que la chanson est composée par Mick Jagger et Keith Richards.
Voilà. Elle était composée par les Beatles, mais elle était donnée aux Stones.
Ils l'ont donnée aux Rolling Stones.
Pour Ringo au départ, ils l'ont donnée aux Rolling Stones.
Lennon McCartney qu'on donnait à.
Ouais. Ils vont enregistrer les Stones. Tiens.
Moi je sais.
On dira pas.
On sait.
Attendez,
notre temps n'est pas écoulé.
Stéphane a droit à 20 minutes pour chaque titre.
Oui, il attend toujours le SMS de Germain.
Non, je ne sais pas.
Non, vous savez pas ?
Non.
Mick Jagger,
bravo.
Là, je vous donne le point.
Oui, bah oui.
Sweet Thing, ça s'appelait même.
Absolument.
Ouais, je bien. Le reste du monde mène, Stéphane, oui. 5-4.
Ça, c'est peut-être plus difficile, mais c'est pour vous.
Il faut qu'on attende que ça avance un peu.
Vous êtes sûr que c'est le bon titre, Patrice? Je vois un petit doute dans votre œil.
Non, si. Non, c'était la chanson.
Pas grand chose pour l'instant.
Ça s'appelle Le Veilleur.
Eminem, j'en sais rien.
Visiblement, ils ne savent pas.
Mais ça chante pas.
Il n'y a pas de refrain.
Il n'y a pas beaucoup de refrains. C'était dans un film. C'est une chanson qu'on entendait dans un film.
Donnez-leur le nom tant que vous voulez. Hein.
Bon, je vous dis qui c'est. C'est Peter Gabriel, mais c'est une chanson qu'on entendait dans un film de Snowden. Sur Snowden, d'Oliver Stone.
Ah, ça va, c'était pas du tout tiré par les cheveux.
C'est bien.
On aurait reconnu Peter Gabriel. Hein.
Mais là, ils n'ont pas le point. Et voilà.
Il n'avait pas encore chanté.
Bah oui, il nous cale les dites. Tu t'apportes comment pour qu'on ne reconnaisse pas. Bravo,
5-4.
Engueulez Alex, tant que vous dites.
Toujours devant.
Alors, c'est vous, alors, vous qui êtes forcé. Stéphane.
Tu ne risqueras pas.
Le petit Jean-Pierre. Ça va, ce n'est pas trop difficile.
C'est Céline Dion.
Oui.
Ah, c'est Céline Dion, oui.
Le petit Jean-Pierre.
C'est pour ça que c'est Stone.
Jean-Pierre.
On va voir Jean-Pierre Castaldi qui chante maintenant.
Allez. 5 partout.
Alors à vous là maintenant.
Petit Jean-Pierre. 30 manières
qui te réfléchissent. Ah, Delpech.
Ah, c'est Delpech ça, oui. Michel. Ouais.
Six, cinq.
Alors, 6-5.
On est devant. Le reste du monde est devant.
Le reste du monde est devant, mais vous pouvez égaliser avec ça. Je voudrais, si ce n'est pas
trop. C'est France Gall.
Oui.
Saint-Pierre.
Elle veut dire un mot à Pierre. Ça c'est une des chansons les plus.
Donc on a égalisé. Alors, comment on départage maintenant?
On joue à Pierre Ciseaux.
Non, ils ont encore un coup à jouer.
Ah, bah oui. On a un peu l'avance.
Bah si.
Mais si.
Oh là là, c'est difficile. Moi je dirais Stone et Chardin.
Vous avez gagné.
Ah ouais, mais là c'était trop facile.
C'est Didier qui part au château de Mercues. Merci beaucoup Stone d'avoir été avec nous.
Merci Stéphane, ça m'a fait plaisir.
Ben, nous aussi, vraiment, je renvoie la lecture de votre autobiographie complètement Stone chez Robert Laffont. Voilà, toute votre vie, et c'est vraiment passionnant, ça se lit très agréablement.
Merci beaucoup.
Même s'il y a des moments, bon, comme dans toute vie, hein, agréables et d'autres.
Forcément, heureusement.
Voilà. J'en profite pour vous donner les invités de la semaine prochaine. Lundi, nous serons avec Pascal Arbillot et Thibaut de Montalembert. Mardi avec Carla Bruni-Sarkozy, mercredi avec Jean-Michel Cohen, le nutritionniste, jeudi avec la star des grosses têtes et Jean-Phi Janssen, et vendredi avec spécial Eurovision avec Alma qui va représenter la France et Marie-Myriam qui a gagné pour la France il y a exactement 40 ans. Et puis j'en profite pour dire que si vous aimez Jade.
Mais si vous supportez tout juste Eric Dussard,
aux côtés d'Eric Dussard, samedi et dimanche, on refait la télé avec Titoff comme invité à 13h30 samedi et dimanche. Merci à tous d'avoir suivi RTL. Il est midi et demi.